Bienvenue pour ce second volet. Dans l'épisode précédent, Simon et Tom nous ont montré que l'animal est l'artisan de la fertilité de nos sols ardéchois. Mais aujourd'hui, un paradoxe se pose. Si nous voulons que les animaux continuent de protéger nos sols, nous devrons penser nos menus. Simon, on entend partout qu'il faut manger moins de viande et de lait. Est-ce une menace pour toi ou au contraire l'opportunité de redonner ces lettres de noblesse à ton métier?
Alors, c'est pas une menace pour moi parce que on est sur des problématiques, enfin, on est vraiment sur du local. Donc, moi je suis installé au-dessus de Prunay, enfin, à Prunay au-dessus de l'Argentière, et je pense que je n'ai pas un fromage qui est vendu au-delà de 20 km autour de chez moi. Donc, c'est vraiment des gens que je connais et qui voient la manière dont je travaille. Aujourd'hui, ce qu'on a plutôt tendance à remettre en cause quand on parle de trop de viande, de trop d'animaux, c'est les élevages intensifs, c'est la culture du soja pour vraiment engraisser des bêtes. Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans cette optique-là. D'autant plus que donc moi, je produis en agriculture biologique et en AOP Picodon, donc on a des contraintes aussi alimentaires. Moi, la ration de mes chèvres n'a pas le droit de venir au-delà de la zone de Drôme-Ardèche. Donc on est vraiment sur du local. C'est là aussi que ces labels prennent un peu tout leur sens. Et donc on rentre pas vraiment en concurrence avec ces problématiques-là. Après, oui, il y a des gens qui sont végétariens par choix écologique, et ça s'entend complètement. Mais je pense pas que ce soit nos systèmes d'élevage qui soient forcément pointés du doigt. Moi, j'ai un petit élevage avec 40 chèvres. C'est pas forcément comparable à des plus gros élevages qui ont des impacts parfois beaucoup plus importants sur leur milieu. Et idem à plus grande échelle au niveau du bassin de production. Moi, je suis tout seul dans un rayon de X kilomètres. On n'est pas dans des zones surexploitées par des dizaines d'exploitations qui produisent des milliers de bêtes. Aujourd'hui, je suis le dernier éleveur, on va dire professionnel du village, alors qu'il y a encore quelques années, il y en avait deux voire trois. Il n'y a pas une surexploitation des terrains et une surprésence des animaux. Au contraire, je pense qu'aujourd'hui, elle est plutôt bénéfique, et je pense que c'est pas vraiment remis en question dans la mesure où les animaux font plus de bien que de mal sur nos terrains, quoi.
Tu veux rebondir?
Non, encore une fois, oui, je suis vraiment d'accord avec tout ça. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup le fromage. Enfin, c'est pour ça que je fais ce métier, hein. J'adore le fromage, la viande aussi. Je trouve qu'il y a une manière de consommer ces produits qui peuvent être bénéfiques, vraiment, pour l'environnement et pour le local. Et oui, on a tendance à un peu oublier quand on se focalise sur les élevages intensifs, sur vraiment toutes les dérives en fait associées à ce genre d'élevage. Non, moi je pense que ça peut être bénéfique. Du coup, ça fait vivre, comme Simon dit, ça fait vivre les zones rurales, où il y a encore des petits éleveurs qui font vivre leur collectivité. Enfin, et il y a une demande, hein, vraiment importante. Enfin, nos fromages, nous par exemple, on les vend vraiment facilement. On a jamais de stock. Donc il y a vraiment une demande pour ce genre de produits. Mais une demande de produits qui respectent des valeurs écologiques et éthiques dans le traitement des animaux. Et je voulais rajouter que ces fromages, en fait, j'ai dit précédemment, mais ils sont issus de zones qui sont pas cultivables autrement. Qui peuvent pas être cultivés pour d'autres aliments comme la farine ou les légumes ou ce genre de produits. Donc moi je suis vraiment très favorable à ce qu'il y ait plus de petits éleveurs de fromage et par extension d'éleveurs de bovins ou de caprins pour la viande. Nous, on fait pas de viande, mais je pense que ce sera bénéfique, oui.
Ouais, ça me fait penser dans les greniers d'abondance rappellent que 60 à 70% de la surface agricole mondiale est composée de prairies que seuls les animaux peuvent valoriser. Donc si on supprimait l'élevage, ces terres ne seraient pas comment dire, disponibles ou libérées pour les petits éleveurs et deviendraient même incultivables en fait, pour l'homme, et même elles ne seraient pas du tout valorisées. Donc même si le consommateur végétalise de plus en plus son assiette, paradoxalement, finalement, ça peut amener à comment dire, un meilleur rendement, enfin un meilleur allié pour le fumier que vous produisez ou la terre qui vont être cultivées. Enfin, pour moi, il y a une certaine complémentarité qui peut être valorisée justement via l'élevage et que les petits éleveurs vont mettre en avant que comparé aux grosses machines qui font du mal à la terre, quoi, et au sol.
Après, les grosses machines, elles sont là aussi parce qu'elles ont le terrain pour, les capacités pour. Nous, aujourd'hui, si on met une grosse machine, donc grosse machine, on va dire une grosse exploitation, on va pas mettre une exploitation à Prunay avec 600 chèvres, c'est pas possible. Il faut des bâtiments qui sont surdimensionnés par rapport aux nôtres. Moi, le jour où j'ai construit mon bâtiment, j'avais l'impression de construire une usine. Quand j'en discute avec des collègues, c'est à peine un petit cabanon de jardin, quoi. C'est vraiment pas du tout le même référentiel. Mais voilà, avec les contraintes qu'on a, que ce soit à cause du relief, même si on met une grosse exploitation, les grosses exploitations, elles produisent leur fourrage, elles produisent leurs céréales, elles produisent. Chez nous, c'est pas possible. Ou alors, il faut faire des heures et des heures de route en tracteur pour aller produire ses céréales dans la vallée ou sur le plateau. Et c'est quelque chose qu'une grosse exploitation ne fera pas parce que ce n'est pas rentable. Ou alors, c'est des exploitations dans des exploitations où, en fait, il y a une partie de l'exploitation qui est à flanc de colline et puis il y a une autre partie de l'exploitation qui est dans la montagne. Mais les deux ont très peu de liens, et en fait il y en a une qui sert à alimenter l'autre et vice versa, quoi. Mais voilà, l'objectif et l'intérêt d'être à petite échelle, c'est d'arriver justement à valoriser le plus possible ce qu'on a sur place, et ce qu'on a sur place, on peut pas le valoriser à grande échelle, d'où l'intérêt d'avoir des petites structures et encore plus sur des territoires chez nous en Ardèche où on n'a pas non plus des bassins de consommation qui sont monstrueux, si on veut éviter de transporter d'envoyer nos productions à Rungis tous les matins, eh bien, il faut que ce soit consommé localement, et si on veut que ce soit consommé localement, il faut voir à plus petite échelle. Si on voit à plus grande échelle, ça implique d'autres problématiques qu'on n'est pas forcément en mesure de gérer nous, et qu'on a, enfin, moi à titre tout à fait personnel, j'ai pas du tout envie de le gérer moi, j'ai pas du tout envie de gérer l'expédition de fromage en grande quantité. Je suis pas négociant en fromage. Je préfère vendre à la ferme ou sur le marché, et puis avoir le contact direct avec le consommateur et le retour du consommateur. C'est ce qui est valorisant aussi dans nos métiers.
Ouais, justement, vous avez pu avoir un peu ces retours avec le week-end ferme en ferme que vous avez vécu justement le week-end dernier. Tom, tu veux en dire un mot sur ce week-end?
Oui. C'était un très, très beau week-end. Vraiment, ça fait plaisir de voir autant de personnes qui viennent passer un week-end sur une ferme pour voir des chèvres, des poules, du maraîchage. Et que ces personnes-là sont en plus intéressées par nos productions et sont curieux. Et ça, ouais, ça motive et ça donne beaucoup d'espoir, je pense, pour la suite, pour le développement de d'autres fermes et puis des magasins de producteurs, par exemple. Mais en tout cas, on était vraiment contents de faire partie de cet événement. Et ouais, en fait, ça nous nous, en fait, quand on fait ce métier, on se rend pas toujours compte, en fait, enfin, des fois, on est tellement pris dans ce qu'on fait, dans le stress, qu'on prend pas assez de recul pour se dire que finalement, ça, y a beaucoup de monde, en fait, qui sont intéressés et qui bénéficient de nos produits. Et là, on va voir les consommateurs, voir les personnes goûter nos fromages, nos glaces. Je sais pas, ça fait du bien, moral.
Bah ouais, c'est sûr, ça permet d'avoir un vrai contact humain autre que chèvre.
Ouais, voilà. C'est ça que je voulais dire.
Je voulais vous parler un peu d'un concept. Je sais pas si vous connaissez le concept de viande de cueillette. C'est la viande de l'idée que la viande ou le fromage devrait être un sous-produit noble du système agricole sain. Et par exemple, Simon, toi, tes bêtes, elles vont manger l'herbe locale, les broussailles. Elles ne dépendent pas de soja importé du Brésil ou autre. Et ce qui permet de valoriser ce que elles mangent et ce que nous aussi, nous mangeons finalement. Qu'est-ce que tu en penses?
Alors, ben, oui, après, c'est juste le concept de cueillette, de viande cueillette que j'ai du mal à saisir. Après, de manière générale, je pense que c'est important d'arriver ouais, vraiment valoriser ce qu'on a nous. On a des terroirs qui sont riches, enfin, que ce soit nous en Ardèche, c'est partout pareil en France. Si on a autant, et je vais parler pour mon exploitation, si on a autant d'AOP en France, c'est justement lié au terroir, c'est lié au local, et c'est tout l'intérêt en fait de ce genre de démarche, c'est d'arriver à faire avec ce qu'on a nous, et pas forcément faire avec ce qu'on peut trouver ailleurs. On fait des très belles choses ailleurs, mais voilà, c'est comme en fait, si je peux faire le parallèle, c'est comme quand je pars en vacances un peu loin. Eh ben, je suis très content d'en profiter pendant mes vacances, et puis une fois que je reviens chez moi, eh ben, je reviens à ma vie quotidienne, et puis je n'ai plus ben, la plage avec la mer. Ben voilà, moi j'habite en Ardèche, j'ai pas la mer, c'est comme ça, et c'est très bien. Et donc il faut arriver, il y a des choses qui sont très bien ailleurs, il n'y a pas de souci de temps en temps. Pareil, on peut manger des avocats, on peut manger des oranges qui ne sont pas forcément produites chez nous, c'est très bien. Mais voilà, arriver à axer notre alimentation sur ce qu'on produit chez nous, ça évite du transport, ça évite des transformations de la congélation, par exemple, ou des choses comme ça. Ça n'en sera que plus sain, je pense. Très souvent, on dit que plus on mange frais, plus on mange sain. Alors, j'ai jamais vraiment creusé le sujet, mais ça semble tellement logique en fait que c'est peut-être pour ça que j'ai jamais vraiment approfondi le truc, c'est que c'est arriver à faire en local, ça devrait être du bon sens.
Oui, et puis très souvent, quand même, tout ce qui est local en termes de qualité est quand même très supérieur à ce qu'on peut trouver en termes de mondialisation. De mettre en avant nos produits locaux, que ce soit en termes de légumes, viande, lait ou autres.
Ouais, je sais pas si c'est forcément meilleur chez nous qu'ailleurs, parce qu'il y a des choses que d'autres gens feront bien mieux que moi. Si demain j'ai envie de faire pousser du café, je pense que le matin je boirai du lait de chèvre et puis voilà, ça s'arrêtera là. Mais voilà, si il y a des choses, on n'y coupera pas. Oui, on mange du chocolat, on boit du café, et ça on peut pas le faire chez nous. Mais sur certaines choses, c'est vrai que quand on voit qu'on importe de la viande de l'étranger. Quand on sait que la majeure partie, alors je n'ai pas les statistiques en tête, mais la majeure partie de l'agneau qu'on consomme provient de Nouvelle-Zélande ou d'Australie, alors qu'on a des super producteurs on a des super producteurs de ovins en France, enfin, ça semble être. Enfin, ouais, voilà, c'est une aberration. Pour certaines choses qu'on arrive à faire nous, pourquoi aller chercher ailleurs? Et moi, aujourd'hui, ce que je regrette, mais c'est un peu le problème de la mondialisation, c'est comment est-ce qu'on en arrive à arriver à produire de l'agneau qui a traversé la planète moins cher que à quelques kilomètres de chez nous, alors que il a traversé la planète, quoi.
Ah ouais, c'est clair, c'est.
Alors aujourd'hui, encore plus quand on voit le coût des transports qui explose, le coût des, enfin, et voilà, on en revient un peu au bon sens et revenir à ce qui est plus simple, quoi. Et de manière générale, si on voit un peu plus grand que juste la zone de l'élevage, c'est aussi tout un écosystème qu'on fait vivre. C'est-à-dire que quand vous achetez local, vous faites vivre l'éleveur qui est à côté de chez vous, qui en contrepartie aussi fait vivre. Alors il faut savoir que les éleveurs, je crois que les agriculteurs, c'est 2% de la population active, je crois à peine. Mais l'écosystème autour de l'agriculture, il est énorme. Si on enlève aujourd'hui les agriculteurs, alors certes c'est que 2%, mais toutes les personnes qui tournent autour de l'agriculture, c'est beaucoup plus de monde que ça. D'autant plus dans des régions un petit peu plus reculées, un petit peu plus rurales. C'est un pilier qui repose sur peu de gens en fait, et on s'en rend pas forcément compte. Et consommer local, c'est maintenir cet ancrage local qui il reste solide à mon avis, parce que de toute façon, on pourra pas faire sans agriculture locale, mais il faut l'avoir en tête en fait.
Carrément. Et d'ailleurs, c'est une question que, comme ça, un peu vaste. Mais si on perd les éleveurs, en fait, enfin, si on n'a plus d'éleveurs, en fait, on perd littéralement un peu comment dire, l'âme un peu de nos campagnes. On a aujourd'hui, c'est avec vous, par exemple, au Hameau du Buis, qui vous faites du maraîchage, du fromage, clairement, le consommateur pourrait venir chez vous pour récupérer un peu l'essentiel de la nourriture. Si vous n'étiez plus là, par exemple, ça serait un manquement au niveau valorisation du territoire.
Ouais, c'est sûr. Bah, ça fait vivre, hein, ça fait vivre les campagnes, hein, tous les métiers liés à l'agricole. Et puis ça les dynamise, hein. Je sais que, enfin, moi, il y a beaucoup du coup d'agriculteurs qui font pas que de l'agricole. Ils s'engagent dans des assos, ils font des événements musicaux, des festivals. Enfin, il y a tout un écosystème comme ça autour des arts et même plus autour du créer en fait un une enfin il y a beaucoup de créations de d'événements qui en découlent et donc ça oui ce serait une grosse perte hein, pour le la redynamisation des campagnes qu'on vit j'ai l'impression de plus en plus aujourd'hui. Et qui partent aussi de beaucoup de jeunes installés qui veulent pas que faire de l'agricole et qui veulent aussi s'amuser ou qui ont une vision, qui ont des valeurs aussi sociales, politiques et environnementales et qui veulent partager tout leur savoir via d'autres mécanismes. Mais bon, l'agricole, ça en fait, c'est un gros pilier ouais, de la vie des campagnes. Et sans ça, ce serait bien triste, oui.
J'ai une question un peu ouverte pour tous les deux. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut faire évoluer sa consommation tout en soutenant les agriculteurs, pardon, de son territoire? Qui veut commencer? Simon, vas-y.
Non, moi je dirais qu'il faut parfois revenir à l'essentiel. On parlait tout à l'heure de la consommation de viande. Alors on tombe très facilement dans le. On tombe facilement dans le. Dans le En donneur de leçons, mais consommer moins mais mieux. Enfin, ça, on l'entend très souvent. Et effectivement, aujourd'hui, et je vous dis ça, j'adore la viande et j'en ai mangé à une époque à tous les repas. Aujourd'hui, manger de la viande à tous les repas, enfin, ça n'a pas forcément de sens. Manger du fromage, oui, mais non. voilà, enfin, réfléchir en fait nos modes de consommation. Oui, parfois l'agneau français coûte plus cher que l'agneau néo-zélandais, et ben on en achète peut-être un peu moins souvent, mais par contre on fait attention à où on achète, à qu'est-ce qu'on achète, et puis vraiment, à mon sens aussi, et c'est tout l'intérêt aussi de Ferme en Ferme pour y revenir, c'est que c'est un week-end porte ouverte où en fait les gens peuvent venir voir les exploitations agricoles, ils peuvent venir voir comment on produit. Et alors c'est porte ouverte sur le week-end, mais la liste des exploitations, elle est, vous la trouvez facilement. Vous la trouvez facilement, et c'est des exploitations qui sont ouvertes aussi toute l'année. Toute l'année, vous pouvez venir voir comment on travaille. Et en fait, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on a envie de. Quelle agriculture on a envie d'avoir autour de chez nous, quelle alimentation on a envie d'avoir nous. Et les labels, c'est une chose, mais voir comment les agriculteurs travaillent, pour moi, c'est la base, parce que ça permet de se rendre compte aussi du travail que c'est. Ça permet de se rendre compte de ce qu'on va consommer et en fait tout ce qu'il y a autour. Quand aujourd'hui on consomme de la châtaigne en Ardèche, ben c'est pas juste une châtaigne, c'est du patrimoine. Quand on fait le tour du Tanargue à pied, et ben on voit les châtaigneraies qui sont entretenues. C'est des châtaigneraies parfois qui ont 150, 200 ans. C'est des générations de personnes qui ont entretenu ces territoires. Et voilà, c'est pas juste une châtaigne. C'est un héritage que nous on a et qu'on entretient pour les générations futures. Et voilà, c'est un savoir-faire, c'est vraiment beaucoup plus vaste que juste un fruit ou juste un légume. C'est pareil pour la viande, c'est pareil pour le fromage. Aujourd'hui, nous, donc pour revenir sur le fromage, c'est l'AOP, c'est le Picodon. Ben, le Picodon, ce sera différent du Pélardon, ce sera différent de tous les autres fromages de chèvre qui sont très bons, hein. Pas aussi bons, mais très bons aussi. Mais voilà, c'est ce que nous, on sait faire. Encore une fois, ça ne veut pas forcément dire qu'on fait moins bien ailleurs. Mais voilà, il faut revenir à faut, qu'est-ce qu'on mange, comment c'est produit, où est-ce que c'est produit et qu'est-ce qu'on a envie de mettre en avant. Et Tom le disait très bien, en fait, c'est une démarche qui est politique aussi. C'est pas seulement alimentaire. C'est des choix de société aussi. Et on s'en rend pas forcément compte.
Tout à fait. Tom, tu veux répondre à la question? Tu veux que je te la repose si
Oui,
tu veux?
peut-être.
J'ai été trop long, pardon.
Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut faire évoluer sa consommation tout en soutenant les agriculteurs de son territoire?
Bah oui, manger local, oui, c'est... Bon, on y revient, mais manger local, pour moi, ça veut vraiment dire manger de tout et être omnivore, donc manger de la viande, du fromage, des légumes, des fruits. Et oui, c'est vraiment d'accepter que si on va avoir cette démarche et manger à l'année et de pas manger des produits importés, bah, l'hiver, au creux de l'hiver, bon. Il n'y a pas grand chose qui pousse, enfin, on peut conserver, fermenter, tout ça, et c'est très bien. Mais la viande, le fromage, ça a sa place. Moi, je vois plus ça comme la saisonnalité, le fait qu'on a des fraises, voilà, en mai, on a des pommes en septembre, octobre, et on a du fromage toute l'année. Voilà, je trouve que manger avec les saisons aussi, surtout. Ouais, les conseils aussi, essayer de aussi de même faire plus de cueillettes sauvages. Je trouve que ça c'est vraiment une bonne manière de du coup de s'ancrer dans les saisons et de voir à tout moment qu'est-ce qui pousse, qu'est-ce qui a du sens de manger à ce moment-là. Et puis voilà, c'est mon point de vue.
Ben merci Tom, merci Simon. On comprend que manger, c'est choisir des produits qui ont une histoire locale, écologique, et que c'est une importance en fait de manger ce qui est à côté de chez nous et pas forcément aller chercher à Pétaouchnok, si je peux me permettre. Donc merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour un prochain épisode de Demain dans la Terre.